Bonjour tout le monde, bienvenue dans le show du vendredi. Cette semaine, exclusivement, je commence avec un extrait d'un de mes bulletins de nouvelles de nos chères mères du Québec faits en porcelaine qui ont besoin d'aide, qui ont beaucoup de problèmes. Et on suit rapidement avec l'extrait du lundi de l'épisode En toute liberté avec le docteur Karim Elayoubi qui, non, on parlait pas de santé cette semaine, mais bien d'un référendum sur la souveraineté. Le côté légal et juridique du truc nous montre que même si ça gagnerait, c'est pas terminé, on va dire ça comme ça.
Geneviève estime qu'il y a urgence d'agir. Les formations, données par des avocats, sont insuffisantes, à son avis.
Ça prend un code de conduite. C'est quoi le respect? C'est quoi l'incivilité? Comment faire de la communication non-violente envers nous? Comment bien communiquer?
OK. Comme d'habitude, j'ai l'impression que nos élus enfants martyrs prennent le problème à l'envers. Mais à ma grande surprise, celui qui a plus mis le doigt sur le bobo, c'est le fils de Jean Charest.
Je me demande si la politique, ça a déjà été facile en démocratie. Je pense que c'était pas facile avant, puis c'est surtout pas facile. Moi, je sens l'émotion de la mairesse, je la sens sincère. Puis on peut pas être indifférent. Maintenant, cela étant dit, il n'y a pas de manuel ou de code de conduite, encore moins de baccalauréat universitaire pour être maire, premier ministre, conseiller municipal ou élu. Il y a deux choses qui sont importantes, à mon avis. D'un côté, il y a la préparation. La préparation, c'est pas simplement le staff, l'organisation de campagne, c'est son noyau dur, c'est sa famille, c'est ceux qui nous aiment, qui nous suivent, qui nous accompagnent. C'est essentiel en politique. L'autre aspect, c'est la façon dont les élus se comportent les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est à tous les niveaux de palier de gouvernement. Les élus doivent trouver un équilibre qui est franchement pas évident entre le fait
d'être... Et ça, ça a changé dans les dernières années?
Ça a changé parce que, peut-être en partie parce que le tempo, la vitesse médiatique a changé. Il faut répondre tout le temps, constamment, réagir. On a assez peu de temps pour réfléchir. Il faut toujours être sur le qui-vive. Et ça, je pense que c'est difficile pour certains élus, puis on peut le comprendre.
Deux points. Les médias, la famille. Sur la réalité des médias d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne les lâchent pas d'une semelle et que ça prend beaucoup de courage, de colonne et de vivacité d'esprit pour leur faire face en tout temps. Encore plus pour aller à contre-courant du narratif qu'ils veulent créer. Plusieurs n'en sont pas capables. Donc c'est une première cause de ces démissions de masse, mais pas la seule.
But I'm not done yet.
La famille maintenant. Avant d'aller en politique, premièrement, il ne faut jamais que tu y ailles tout seul. Il te faut absolument un réseau de soutien, une bulle où tu peux te déconnecter à l'occasion. Notre famille, nos proches, nos amis, c'est essentiel car la politique va nous affecter et les affecter aussi, qu'on le veuille ou non. Et là-dessus, Jean Lapierre de son vivant avait un conseil à donner.
Moi, j'ai toujours pensé, c'est ça, qu'il y a deux moments pour faire la politique. Quand on est jeune et qu'on n'a rien à perdre, ou quand on est plus vieux et qu'on a tout à donner. Quelqu'un en milieu de carrière, par exemple, avec des enfants de 7, 8, 9 ans, je vais dire non, repense-y, saute ton tour, attends que ta famille soit élevée. Moi, j'ai vu la différence entre des jeunes enfants et des enfants adultes. Le niveau de confort n'est pas du tout le même.
Pas du tout, hein?
Ah non, c'est le jour et la nuit.
Ouais.
C'est le jour et la nuit.
Donc, si plusieurs élus sont partis en politique en ne faisant jamais ce calcul et que ça allait être une partie de plaisir, pas surprenant que plusieurs d'entre eux quittent aussi. Deuxième raison. Troisième raison, l'incompétence.
Il faut aussi accompagner les futurs candidats avant même leur entrée en politique municipale pour qu'une fois élus, la marche soit plus douce et la chute évitable.
Vous, quand vous postulez pour un poste de cardiologue dans un hôpital, est-ce que vous vous attendez à être accompagné dans les premiers 6 mois avec un autre docteur qui guide votre main durant vos opérations à cœur ouvert? Oui, je comprends, nous sommes en démocratie, n'importe qui peut se présenter et ça peu importe ses compétences ou son background. Mais calvaire, informez-vous au minimum avant de faire le saut. Oui, le chemin de Compostelle, tout le monde est libre de le faire, mais soyez pas surpris que vous vous effondrez durant la première semaine parce que vous vous êtes même pas préparé au défi. Les formations sont là comme outils complémentaires, mais par défaut, le système assume que si vous vous êtes rendu là, c'est que vous savez un peu comment faire votre travail.
Exactly!
T'avais quand même Paul Saint-Pierre Plamondon qui montait tranquillement, qui a bien saisi l'opportunité lorsqu'il y avait eu la voleuse de pamphlets.
Et, quand tu penses que l'avenir du Québec pourrait... Tu sais, des fois, on parle de... Excuse-moi de te couper, mais tu sais, des fois, on écoute les retours vers le futur ou peu importe, tous les films reliés au voyage dans le temps, on dit comme un moment dans l'histoire que si telle personne fait pas telle affaire, tout change. Quand tu penses, parce que c'est une fille qui a volé un dépliant d'une boîte aux lettres, tu te dis « My God! »
Mais il faut quand même être conscient qu'au Québec, c'est très difficile de se défaire de cette question-là.
Non, c'est ça. C'est, tu peux pas « You're in or you're out ». Tu sais, avoir une position, là, on essaie d'avoir une troisième option que tu vas parler dans quelques instants, mais c'est ça, dans le débat constitutionnel, tu ne peux pas avoir de position là-dessus au Québec, c'est quasi impossible.
Absolument pas, et la troisième option, elle est beaucoup en ce moment occupée par la CAQ, la Coalition Avenir Québec, donc c'est assez... Donc là, il faut que tu sois meilleur que la CAQ sur l'aspect de l'autonomisme, plus rassembleur, inclure plus les Anglos, plus les immigrants. Tu marches un peu sur un fil de fer, c'est quand même très difficile.
Je te pose la question, Karim, si vraiment, OK, là, on se met PQ sur pouvoir, référendum, premier mandat, on assume que Denis Coderre va être à la tête du PLQ d'ici là. Penses-tu que les caquistes, le parti va comme, bon, pas durant la période de quand oui, quand non, penses-tu qu'il va comme avoir un schisme au sein de la CAQ, que les Jolin Barrette et les Bernard Drainville vont aller du bord du oui, et les Fitzgibbon, Dubé et Guilbeault vont aller de le bord, puis tout le monde va se dire genre, là, on est là-dessus, puis on se regroupe tout après quand la chicane va être finie. Parce que moi, je vois pas la CAQ vraiment positionnée d'un côté comme de l'autre. Je pense vraiment que soit ils vont vouloir assis entre deux chaises puis ça marche pas du tout, ou Legault ou peu importe qui va être là encore va lui dire regarde, pour cette question-là, on laisse nos membres ou les gens du parti choisir quel bord qu'ils veulent, on se positionne pas officiellement là-dessus.
Là, c'est tellement hypothétique parce que ça dépend.
Ah, c'est sûr.
Ça dépend à quel point ils vont manger une volée aux prochaines élections.
Ça aussi, c'est sûr.
Donc ça va faire en sorte qui va être le nouveau chef. Est-ce que le nouveau chef va être quelqu'un qui est plus de l'aile libérale ou quelqu'un qui est libéral pour au sens du libéralisme classique, on s'entend,
mais de l'aile rouge,
ou quelqu'un qui est plus style Jolin Barrette ou Bernard Drainville, ça dépend. C'est extrêmement hypothétique. Moi, je pense que sur une question aussi fondamentale que ça, un parti doit se prononcer de façon assez claire. C'est ce que là, un parti dise, bon, la moitié d'entre nous sont de ce côté-là, l'autre moitié de ce côté-là.
C'est une coalition, c'est dans le nom. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est ça. Hein?
Exactement. Mais tout ça est à l'avantage de Paul Saint-Pierre Plamondon et de Denis Coderre, qui va potentiellement être le prochain chef là, du PLQ, si la tendance se maintient. Il n'y a même pas de tendance, là. Mais, je veux dire, je pense que ça va réveiller. Je pense que ça peut être extrêmement mauvais pour le PCQ parce que ça peut réveiller les libéraux. Disons, Paul Saint-Pierre Plamondon risque d'être, la tendance se maintient, premier ministre du Québec. Il promet un référendum. Ce serait très mal vu qu'il ne le fasse pas. Je ne pense pas qu'il bluffe.
Non, moi non plus. Il bluffe pas.
Je pense pas qu'il bluffe, je pense qu'il veut vraiment le faire. Maintenant, pourquoi il veut le faire? Bon, premièrement, il va être perdant. Monter, aller gagner 15 points. Entre maintenant, on est quoi? 34-35%. Donc, gagner 15 à 16 points, ça va être extrêmement difficile, compte tenu naturellement de la démographie actuelle du Québec. Premièrement, s'il était gagnant, ce serait à 50,3 versus 49,7. OK? Donc là, tu fais quoi avec le 1 sur 2 qui reste? Là, tu divises un peuple de façon énorme. C'est pas comme les Catalans qui ont une volonté très intrinsèque du peuple là, de vraiment séparer. Le gouvernement chrétien a saisi la Cour suprême et il a dit « Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Parce qu'il n'y a rien, selon nous, dans la Constitution qui prévoit une sécession, mais il n'y a rien qui l'empêche vraiment.
C'est ça.
Donc là, à partir de ce moment-là, comment on peut se baser? Donc, tu demandes aux plus hauts juristes du pays de se prononcer là-dessus. Le 20 août 1998, la Cour suprême, les questions qui étaient posées à la Cour suprême, c'est à savoir, puis là je les ai justement ici, l'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec au Canada? Première question. Deuxième question. L'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
C'est ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination des peuples, en passant.
Exactement. Ça, c'est le droit international.
C'est ça, selon les Nations Unies.
Troisième question. Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l'éventualité d'un conflit entre eux quant au droit de l'Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada. Donc, c'est quand même important de se souvenir de ça parce que tout est basé autour de ça. Et quelles ont été les réponses de la Cour suprême suite à ça? Quand même assez clair. 20 août 1998. Selon la Constitution canadienne, le Québec ne peut invoquer le droit à l'autodétermination en vertu du droit international, car il ne s'agit pas d'un peuple colonisé ou opprimé. Cependant, quand une province exprime, là je le cite tel quel, par référendum la volonté de se séparer, le gouvernement fédéral et les autres provinces ont l'obligation de négocier avec elle. Ils ont l'obligation de négocier.
Duh.
Bon, tu as l'obligation de négocier. Pour négocier, OK, pour négocier, deux critères doivent être présents. Ces critères-là sont jugés par qui? Par la Chambre des communes, selon la loi sur la clarté référendaire qui a suite à ce jugement de la Cour suprême là. La question posée doit être claire. Après ça...
Claire selon le fédéral, je tiens à le préciser.
Ben, c'est la Chambre des communes qui décide si elle est claire ou pas.
Ben, c'est ça. Parce qu'autant que d'un côté, on peut dire c'est de bonne foi, puis t'as tout à fait raison, faut pas que la question, peu importe le référendum, sur n'importe quoi, faut pas que ça soit ambigu, faut pas que ça soit un peu qui laisse des points, des angles morts ou quoi que ce soit, ou qui suppose certains trucs qu'ils sont pas. Mais encore là... Hey.
Ouais.
Pas que je suis pas prêt à croire qu'ils ont pas de bonne foi, c'est juste que je me dis, même si ça serait la question la plus claire que pas, j'ai le feeling qu'au fédéral, ils vont encore dire que c'est pas assez clair, c'est juste
et
ça.
Et le résultat doit être clair.
Oui, ça c'est correct.
Mais c'est quoi un résultat clair? 50,3%, c'est-tu un résultat clair?
Ben c'est ça, parce que tu parlais des Catalans tantôt, c'est ça, c'est qu'ils ont voté à 90%, puis l'Espagne a fait « I don't care ». Ils peuvent ignorer les résultats. C'est pour ça que, comme tu le dis, la question est légitime. Qu'est-ce qu'un résultat clair? La seule logique que je verrais, c'est un peu dans les décisions du Parlement de Westminster, quand c'est vraiment des décisions importantes, souvent ils font ce qu'ils appellent des votes aux deux tiers. Fait que est-ce qu'on pourrait étudier cette même logique-là? Ça prendra un minimum du deux tiers, donc on parle de 66% et en montant. Je comprends, c'est pas parfait, là, mais c'est la seule affaire qui est semi-logique derrière cette logique de décision importante-là. Là. Puis un angle qu'on n'a pas pu parler, mais c'est que justement, dans une possibilité d'un référendum qui passerait, mais en marginalité comme ça, autant comme on l'a dit, ça peut être carrément fédéral, puis on aurait, mettons, on prend supposément, c'est ça, évidemment le fédéral veut rien savoir, il va tout faire pour que ça arrive, même si c'est vraiment, il y a une majorité, mais très faible, mettons un genre de 51 ou un genre de 52-48, quelque chose comme ça, et qu'autant, on a certains backing au niveau international, mais bien sûr, les gros Américains, ça s'attend, puis ça tarde beaucoup. En gros, il y aurait possibilité quand même pour le Québec de genre de négocier pour davantage de pouvoir sans nécessairement de devenir indépendant. C'est dans le sens que genre un genre de prix de consolation entre guillemets là. C'est dans le sens que tu sais, ok, on comprend autant que oublier ça l'indépendance, vous l'aurez pas. Écoutez, c'est pas d'un, comme tu dis, c'est pas assez clair, puis on trouve pas que c'est assez que ça. Mais on comprend quand même que quasiment la moitié du peuple qui trouve que sont assez crinqués pour dire qu'on devrait sacrer notre camp. Ça veut dire qu'il y a de quoi qui marche pas. Fait que,
si tu le gagnes, je suis d'accord.
C'est
si
ça.
Si tu le gagnes avec un faible pourcentage, tu n'auras fort probablement pas ton indépendance, mais tu peux faire des gains autonomistes importants.
C'est ça.
Ça, je suis tout à fait d'accord avec ton affirmation.
Puis, pour finir là-dessus, puis autant avec ma position d'indépendantiste là-dessus, puis regarde, j'en ai parlé amplement à quel point l'approche PSPP, puis l'approche péquiste de « on tire sa plug puis on verra », là. Puis je pense que c'est tout base là-dessus, Karim, c'est que la position d'un potentiel référendum en ce moment-là ou dans deux ans sur un gouvernement péquiste géré par PSPP, c'est qu'on part en position de faiblesse. On part vraiment avec une stratégie péquiste de « faites-nous confiance, chèque en blanc ». On n'essaie pas de convaincre, on n'essaie pas de mettre notre système sur le sens du monde, de remettre notre modèle en question, de si justement, on aurait, on fabule, mais un gouvernement péquiste, whatever, indépendantiste, qui se dit, OK, ben avant de vouloir sacrer notre camp, un peu comme un général ou un général américain a déjà dit un jour, que je me rappelle plus de son nom, même un Jordan Peterson qui l'a dit, avant de vouloir changer le monde, commence par faire ton lit le matin. Fait que c'est un peu ça, dans le sens qu'avant de vouloir te séparer, commence par gérer tes affaires puis régler tes trucs. Après ça, OK, on a prouvé dans notre enclos, entre guillemets, provincial, qu'on est capable de gérer, on l'a prouvé, les gens, voici les résultats, that's it, on est capable de gérer tout seul, let's go, bading, badang, pow. Puis le monde embarque. Puis après comme... ça, le potentiel d'un référendum gagnant, c'est quasiment une question secondaire, parce que le monde embarque dans le mouvement. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'on sait qu'on est dans la chenoute, puis c'est plus un genre de vite, 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 avant qu'on soit assimilé, ou vite, 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 c'est notre dernière chance pour les vieux caribous de réaliser leur rêve, sans même vouloir prouver au peuple québécois qu'on est capable de gérer nous autres-mêmes de manière justement libérale et démocratique.
Mais l'attitude d'autonomie autonomiste, c'est ça, en réalité. C'est ça. Et tu sais, je veux dire, ultimement, si t'es capable de t'émanciper de la péréquation, d'avoir une économie forte, je veux dire, d'avoir une croissance économique permet d'être autonome sur le plan économique, d'avoir une forme de souveraineté énergétique aussi.
C'est ça.
À partir de ce moment-là, d'avoir des systèmes qui fonctionnent bien, que ce soit santé, éducation, qui sont très solides et qui n'ont pas besoin, je veux dire, de l'aide du fédéral. À partir de ce moment-là, je veux dire, ton État, il est à peu près formé.
Parce qu'on prend l'exemple inversé. L'Alberta est en Christine meilleure position pour déclarer l'indépendance que le Québec.
Ben oui.
T'sais, si le Québec aurait justement... c'est lui qui donnerait de la péréquation aux autres provinces, ce serait pas lui qui en recevrait. Justement, leur économie roule, taux de taxation très bas, c'est quasiment eux autres le money machine du pays. Autant que je comprends que le fédéral voudrait pas non plus encore moins que sacle le camp, parce que toujours au lendemain, ils ont plus de cash, quasiment. On enchaîne avec Jacinthe Varel, qui revenait sur la consultation que le gouvernement du Québec a mis en ligne sur le troisième lien et le transport en commun structurant pour la ville de Québec, qui est un petit peu broche à foin, puis également, elle commente le fait qu'on a une perte de la croissance économique à la ville de Québec pour la première fois en 20 ans.
Passer au travers là, du questionnaire, puis tu parlais justement des questions qui étaient peut-être un peu plus sujettes à interprétation, mais je lis devant les yeux ici, là, la question dont tu parlais. Dans quelle mesure êtes-vous favorable à la mise en place d'un réseau structurant de transport en commun, soit un réseau de transport en commun majeur proposant divers moyens de déplacement, permettent de transporter beaucoup de personnes de manière confortable, efficace, fiable et attrayante dans la communauté métropolitaine de Québec? Et là, entre parenthèses, on ajoute. On prend les villes de Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures, l'ancienne Lorette, la ville de Lévis, ainsi que les MRC de la Jacques-Cartier, de l'île d'Orléans et de la côte de Beaupré. Il y a plusieurs enjeux dans cette question-là. Là.
I smell bullshit, pour être bien franc. Là. Parce que tu sais, confortable et attrayant, on s'en sac, ça va-tu plus vite que mon char? Est-ce que ça coûte pas cher l'utiliser? C'est ça les deux points principaux. C'est secondaire, à la limite, le confort. Vous allez me dire, non, c'est pas secondaire, Joey. Vous savez ce que je veux dire. Là. Mon but, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de siège dans ce transport-là. J'entends ces arguments-là, puis j'ai envie de dire que c'est le maire marchand qui me chicote dans les oreilles en arrière. On dirait que c'est tous ces arguments qui nous sortent depuis quasiment un an et demi, deux ans.
Puis, tu sais, quand on fait la liste des secteurs autour de Québec, comme Saint-Augustin, l'ancienne Lorette, ville de Lévis, les MRC de la Jacques-Cartier, l'île d'Orléans, côte de Beaupré, on sous-entend que le réseau de transport structurant desservirait ces régions-là, alors que dans les faits, le projet qui a été suspendu touchait 19 kilomètres de la région de Cap-Rouge, la Pointe-Sainte-Foy. Donc, Cap-Rouge, Pointe-Sainte-Foy, Sillery et centre-ville de Québec, avec une bretelle là, qui s'en va un peu vers Limoilou. C'est ça, c'est 19 kilomètres linéaires. Donc, quand on parle d'un réseau de transport structurant, puis on nomme ces agglomérations-là ou ces municipalités-là, ces villes autour de Québec, on sous-entend qu'elles vont être incluses, mais je trouve qu'on met ça gros. Bon, en dernier, quand il était question de ce projet-là, on parlait d'avoir une phase 2, une phase 3, une phase 4, mais donc oui, on pourrait dire, ben oui, mais dans la phase 4, tout le monde va être impliqué là-dedans, mais est-ce qu'on écrit dans la question d'ici 2070, tu sais, d'ici l'année 2070, là, parce que...
D'ici qu'on ait des voitures volantes.
Pour vos petits-enfants, quand vous serez grands-parents. Il y a beaucoup de choses très, très préoccupantes dans ce sondage-là, dans les questions, la nature des questions aussi. T'sais. J'aurais aimé voir, moi, des questions sur qu'est-ce qui est prioritaire de desservir à Québec si on a un réseau de transport structurant. T'sais. Je reviens, je vais tout le temps le marteler, là, mais on a un aéroport international à Québec et il n'était pas sur le trajet du tramway. Et là, je l'ai martelé, je l'ai écrit dans les réseaux sociaux. J'ai souvent tagué le maire de Québec. J'en ai parlé à la télévision, je parlais tout le temps de l'importance d'avoir certains points stratégiques qui soient pris en compte puis qui soient nécessairement absolument desservis dès la phase 1, qui soient en priorité desservis. C'est pas normal qu'un voyageur, un touriste arrive à l'aéroport de Québec et puisse pas se rendre au centre-ville de Québec autrement que par taxi. Ça nous place pas dans une grande ville compétitive moderne.
J'ai travaillé dans un hôtel du centre-ville de Québec pendant un an. Je veux dire, la quantité de touristes étrangers qui était surpris qu'il n'y avait même pas un service de navette entre le centre-ville et l'aéroport. Il fallait que c'est vraiment taxi, 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 taxi. Il y en a plusieurs qui ont fait la face. Ils l'ont pris, mais ils se sont dit, ben voyons donc. Ils ont même mal fait. C'est un peu ça. Là.
Ben oui.
La pseudo-nouvelle reliée à la consultation, c'est que c'est fait en ligne. Personnellement, écoute, je comprends. On est en 2024. C'est vraiment le plus rapide et le plus efficace de faire ça pour les gens. Ça les évite de se déplacer. Puis les consultations publiques. Puis justement, tout le monde peut le faire à l'heure aussi qui est disponible. Puis c'est pas une histoire de. Un peu comme le maire Labonde avec le SRB à l'époque. C'était en une et trois heures de l'après-midi, un genre de mardi en milieu de semaine, puis il y avait juste des retraités qui y allaient. Là. Mais perso,
par souci de bonne foi puis de perception, j'aurais laissé ça sur ce format-là, mais j'aurais quand même fait certaines consultations publiques pareilles. Par souci de garde de main tendue, parce que j'ai l'impression tellement qu'aujourd'hui, puis on le voit, on a parlé souvent, toi et moi, Jacinthe, dans la politique municipale, même au provincial, tu sais, qu'on essaie de tout et absolument tout d'éviter de parler au peuple, tu sais, les plébiens, tu sais, les roturiers, tu sais, aller voir le monde, tu sais, c'est, non, on va aller voir des organismes subventionnés, ouais, on va aller voir des maires et des conseillers, puis je dis pas de pas le faire, tu sais, oui, les maires et les conseiller municipal, ça reste des gens qu'il faut consulter. Mais voir le simple gens, on dirait que c'est quasiment rendu radioactif en politique aujourd'hui. C'est comme le monde, voyons, c'est une gang de gnochons. Qu'est-ce qu'il y aurait à nous dire? Le côté public de la politique, de représentativité du peuple et de rendition des comptes, j'ai l'impression qu'elle n'est plus là.
Ça m'amène quand même à rester dans la région de Québec pour te parler de l'autre sujet, parce qu'il y a un article qui est sorti hier au sujet du fait que c'est un rapport du Conference Board du Canada qui a identifié Québec comme la seule région en décroissance au Canada en 2023, avec une baisse de son PIB de 0,4%. Donc, c'est la première fois en 20 ans que la région de Québec est en décroissance en 2023. Première fois en 20 ans qu'on est en décroissance à Québec. La moyenne dans la province de Québec est à est dans le positif. Là, c'est une augmentation de 0,98% du PIB. Donc, ça, c'est la moyenne de la province du Québec. Au Canada, c'est une augmentation de 0,33% du PIB, mais on voit qu'il y a des régions là, ça se passe vraiment bien. Là, on a du plus que 1% puis du 2% plus. Là.
On a certains organismes qui doivent être contents. On n'arrête pas de parler de décroissance depuis tellement d'années. Hein. Ça doit faire le party dans le comté de Jean Lesage ou dans Taschereau. C'est merveilleux. On est dans le progrès de la décroissance, Jacinthe.
Mais là, c'est ça. Il y a un gros piège avec cette nouvelle-là. Parce que, puis on commence déjà à voir les jeux se faire. Le piège qui nous guette, c'est de dire, voyez-vous, si on mettait en branle le projet du tramway à Québec, ça générerait des belles retombées économiques pour la région de Québec. Et là, l'injection de fonds publics dans un projet de transport structurant comme le tramway permettrait aussi de l'injection de capitaux privés dans la construction de tours à condos le long du trajet du tramway. Et là, c'est des milliards et des milliards d'argent public et privé qui seraient investis dans la région. Et là, on aurait une belle croissance économique pour la région de Québec. Mais ça, c'est un piège parce que si on tombe dans ce piège-là, on est en train de dire que l'économie de notre région repose sur l'injection de fonds publics. C'est grave! Si on n'a pas d'injection de fonds publics,
aussi.
Ben oui.
C'est quasiment comme un addict qui dit « Ah, tu sais, je suis en mode désintoxication, une autre ligne de coke, s'il vous plaît, une autre ligne de coke pour faire un petit bout. Après ça, on s'en reparlera dans 10 ans. Là. Tiens, un autre. Ça aide pas, au contraire. Au début, moi, je me posais la question, pourquoi on a des entrepreneurs en construction qui nous disent qu'ils attendent rien que le tramway pour faire le Christi de projet immobilier alors qu'on est en pénurie de logements, que anyway, ils vont faire du cash? Il y a une réponse qui m'est sortie dernièrement, puis c'est vrai que c'est pas fou. Les fameux critères EDI, puis environnemental, que si tu construis à côté d'un transport structurant, tu te plains, je pense, c'est des subventions ou des remises d'impôts, je crois que c'est au fédéral. En tout cas, il y a des programmes gouvernementaux reliés à ça, donc, en bout de ligne, que ça réduit tes coûts et ça augmente ton profit. Je suis curieux de savoir la marge qui aurait de plus avec ça. C'est vraiment marginal ou c'est uniquement faire du signalement de vertu, mais sérieusement, quand l'idéologie, on dit des fois que ça peut bloquer l'avancement d'une société, en voilà un exemple flagrant. Là. Voici un extrait d'un autre de mes bulletins de nouvelles où je lis une chronique de La Presse de cette semaine qui compare Donald Trump à un cow-boy du Far West. Et on poursuit avec un extrait d'En toute liberté du jeudi avec notre PhD biologiste Serge Cloutier, avec qui on parle des nouvelles définitions de pandémie installées par l'OMS et également les effets secondaires de certaines médications et vaccins dans l'avenir.
Bonjour à tous, ici Joseph de Loubéline et voici votre lecture du jour. Aujourd'hui, chronique du journal La Presse, intitulée « Le candidat hors la loi » par Mathieu Bellil. Quand le 24 août dernier, Trump s'est rendu dans le comté de Fulton en Géorgie pour répondre aux 91 chefs d'accusation de fraude et de manipulation électorale déposés contre lui, il a été pris en photo par les services du shérif de l'endroit. Sa photo d'identité judiciaire, le mugshot, a fait le tour du monde. C'était la première fois de l'histoire des États-Unis qu'un ancien président faisait l'objet d'une telle procédure. La mine sombre et renfrognée de Trump révèle un homme en colère,
Calice,
qui a décidé de jouer jusqu'au bout le rôle du hors-la-loi. Il suffit en effet d'ajouter au-dessus de son portrait le mot « Wanted » ainsi que la promesse d'une prime généreuse et la chasse aux renégats peut commencer, comme à l'époque de Jesse James. Sauf que dans cette histoire, c'est Trump qui touche la récompense. Dans les 5 jours suivant la diffusion de cette photo, sa campagne amasse 7,1 millions de dollars en dons. Depuis lors, l'image fait aussi l'objet d'une mise en marché lucrative et savamment orchestrée. T-shirts, affiches, tasses à café, jetons non fongibles, NFT, etc. Pour le bien des Américains, à tort ou à raison, Trump apparaît comme un individu fort et indépendant, qui ne s'embrasse d'aucune des règles habituelles et affirme sans gêne sa singularité. Au sein de l'élite new-yorkaise où il a grandi, on s'est toujours moqué de lui, parce qu'il ne maîtrisait pas bien les codes, ne possédant pas la bonne éducation, et il s'est habitué à faire cavalier seul, à concevoir sa vie et sa carrière selon le principe du « moi contre tous ». Parce que quand tu fais pas partie de la gang, t'es automatiquement un trou de cul. Il se comporte en mésadapté, en misfit, dont les manières brutales forcent tout le monde à se plier à lui. Même son teint, exagérément bronzé, rappelle le visage buriné par le soleil des Lonesome Cowboys. Pensons à John Wayne, vedette de film western. Ah, tabarnak!
Peut-être poser la question, parce qu'il y en a qui, sûrement, qui vont y penser, puis ça, je le sais, supposément, c'est-tu vrai, ça, que l'OMS a justement changé la définition de pandémie durant celle de la COVID pour comme plus faciliter des politiques, je dirais, liberticides. En tout cas, c'est un truc que j'avais entendu. Là. J'ai aucune idée si c'est vrai, je te pose la question. Il y avait comme certains... Avant, il y avait comme certains critères spécifiques, comme tu dis, un certain taux de mortalité, le fait que ça durait, je pense, plus qu'une certaine période, puis ça touchait plusieurs places à la planète. Mais là, supposément qu'ils ont changé carrément la définition, que les critères sont beaucoup plus minimes pour déclencher un peu les genres de tous les trucs d'urgence. Là.
Ouais, non, c'est pas faux, ça. Ça, c'est vrai, là. Je veux dire, ils ont changé la définition. Mais tu sais, faut comprendre aussi que l'OMS, tu sais, genre, ont besoin de fonds des pays qui
des Américains.
Fait que c'est ça. Fait que eux, tu sais, sans dire qu'ils créent une pandémie ou qu'ils créent, tu sais, que c'est eux qui sont derrière et qui tirent les ficelles, ils ont besoin de l'argent. Fait donc ils ont besoin de générer une crainte pour justifier leur financement puis leur job. Ça, c'est vrai. Tu sais, quand ils disent « Ah, oh, on n'est pas prêt » ou « On n'a rien appris de la COVID », mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est un peu de votre faute. Là. Tu sais, vous avez politisé une maladie, vous avez politisé quelque chose qui devrait pas être politique. Quand il y a une pandémie, quand il y a une épidémie, quand il y a une nouvelle maladie, tu sais, c'est la science qui doit prédominer. Puis c'est pas genre, ah ben lui, ce médecin-là, il nous critique, donc son...
Mais c'est ça, la science du doute, le doute légitime, pas la science qui devient quasiment genre hashtag la science, là,
non,
hashtag,
ben c'est
les,
ça.
Hashtag les experts. Là. C'est on ça. Est plus dans le dogme que nécessairement dans la remise en question puis la saine discussion. Là.
Exactement, puis tu sais, pendant la pandémie de COVID, c'était bon, c'est nous qui décident qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, puis lui, on ne l'aime pas, donc sa solution n'est pas bonne. Ce président-là, on ne l'aime pas, donc son vaccin, on ne l'aime pas. Puis là, finalement, il perd, finalement, on aime son vaccin, qui est rendu le vaccin. Là, t'sais, dans une pandémie, il faut qu'il y ait plusieurs idées, il faut qu'il y ait plusieurs solutions, il faut qu'il y ait plusieurs idées, puis de ceux qui se cognent, qui pourraient être capables de bon, ben ça, il y a un peu de vrai ici, il y a un peu de vrai là, ça, c'est pas tout à fait. Fait que il faut vraiment que tu aies plein d'idées qui se mettent en commun, donc il faut avancer ensemble plutôt que de dire « moi j'ai raison, toi t'as tort, donc ma solution est bonne, ta solution est pas bonne ». Tu sais, c'est pas une critique de genre « tel traitement avant la COVID est bon, t'es pas bon » ou tel. Peu importe, là, au niveau des vaccins, au niveau des médicaments, il n'y aura jamais rien qui est efficace à 100%, OK? Je dis ça, c'est impossible.
Il y a des maladies que vraiment on a découvert les remèdes, puis à cette heure, on parle de... Je sais qu'il y a encore certains cas, c'est pas à 100%, ça sera jamais 100% éradiqué, mais on parle par exemple de la lèpre ou le scorbut ou des affaires de même, des maladies d'un autre temps que justement à cette heure avec les antibiotiques, ça a révolutionné le monde médical puis le monde de la médecine humaine, fait que c'est des trucs qu'on va quasiment pas jamais. Mais t'as absolument raison. Le hic avec celui de la COVID, beaucoup, puis la raison pourquoi beaucoup de monde était suspicieux, c'est qu'à quel point c'était fait tellement rapidement, puis aussi que, c'est ça, disons qu'avec la nouvelle technologie ARN messager, que c'est la première fois qu'on s'en servait d'un scale aussi important. Disons qu'il y en a beaucoup qui ont posé des questions, puis il y a plusieurs qui ont eu raison au bout de ligne d'être un petit peu suspicieux, puis c'est pas « Ah, anti-vax! » Non, 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 mes chers amis, là. Même moi, là, j'étais au Nicaragua, j'ai pris mes vaccins contre la malaria, puis les petites B quand j'étais TQ, puis tout le monde aussi, tu sais, c'est juste que celui-là, spécifiquement, il était un peu plus louche que les autres, c'est juste ça. Puis c'est principalement pour les personnes plus âgées que ça allait aider le plus. That's it. C'est la manière que je vois ça.
Non, c'est ça, c'est exactement. Mais de toute façon, il y aura toujours des effets secondaires. Puis je pense que c'est Yann qui le disait cette semaine, justement, que si tu as une chance sur 100 d'avoir la maladie, puis l'effet secondaire, c'est 1 sur 10 000, ben, tu sais, je veux dire, le vaccin va être avantageux. T'sais, si c'est 1 sur 10 000 d'être malade, puis 1 sur 100 d'avoir, ou 1 sur 1 000 d'avoir un effet secondaire, tu y penses deux fois. Mais même les antibiotiques, tu as des gens qui vont être allergiques à un antibiotique, donc tu ne peux pas leur donner ce produit-là pour telle maladie. Donc, il faut que tu aies plus qu'une alternative. Et quand tu arrives, tu dis, il y a un seul vaccin, puis c'est aucun traitement, puis c'est juste ça qu'il faut. Quand tu multiplies ça par des millions et des millions et des millions de doses, même si c'est un effet secondaire sur 100 000, ben, je veux dire, vu qu'on a tellement donné de doses, ben, c'est normal à un moment donné qu'il y en ait plus, tu sais.
Comme à tous les vendredis, on termine la semaine avec Sensei Pascal, qui nous a fait une profonde réflexion en lien au film « La poursuite du bonheur » avec Will Smith.
De voir qu'ils sont des jeunes enfants privilégiés prend tout pour acquis à cet âge-là, que la bouffe, ça naît dans un garde-manger, puis tout ce que tu as à faire dans
ta vie... Le jambon, ça pousse dans les arbres.
Oui, mais t'as tout ce que tu as à faire, c'est de te plaindre qu'il ne reste plus de jambon, puis que ta petite sœur a fini les biscuits... Puis c'est le plus grand gramme de ta vie, c'est ça. Alors que, comme disait ma mère, t'as le cul plein.
Alors, puis écoute, mais t'as fait des voyages, Pascal. Moi, quand j'ai fait mon 18 jours au Nicaragua pour voyage humanitaire, j'adorais mon expérience. Mais je te dirais que quand je suis revenu chez moi, mon matelas puis ma douche, disons que je me sentais quasiment au paradis. Là. Je me dis, tabarouette.
C'est ça le but. C'est exactement ça le but. Et c'est de vous affranchir du matériel. C'est pas vrai que vous avez besoin de ce que vous avez autour de vous autres. Là. Regarde en arrière de moi, là, j'ai à peu près... Je suis tout seul ici, là. J'ai à peu près 350 cossins là, qui ne servent à rien, là. J'ai de l'espace de trop comme être humain. Puis ça, c'est pas de la progression, c'est de la régression.
De l'accumulation.
L'accumulation de votre confort n'est pas une indication de progression dans votre vie, c'est une indication de régression. On parle, on a des beaux discours dans la vie, là. Ouais, c'est la générosité, puis pas matérialiste, puis pas capitaliste. Mais comment tu l'appliques dans ta vie? C'est ça qui est important, la leçon à matin, à travers le film The Pursuit of Happiness. Que ce qui est beau dans le film, c'est... Si vous êtes assez empathique et vous laissez aller dans le film, puis sérieusement, c'est très facile parce que le film est vraiment bon, puis l'histoire est vraiment inspirante. And I relate to it in a number of points. Et c'est de voir à quel point les besoins de base, c'est les besoins de base. Et la scène, là, je parlais de mes élèves, la scène qui a marqué le plus mes élèves a été la scène où le personnage du fils échappe son Capitaine America. Pendant tout le film, le fils... tient sa figurine là, d'à peu près ça longue de Captain America. C'est son jouet, c'est sa doudou, c'est son everything. C'est sa seule constante, en fait. Il y a une grosse métaphore à travers le jouet. Puis arrive un moment donné où il l'échappe parce que là, c'est dans les pires moments du groupuscule familial où il n'y a plus le sou. Là. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, Will Smith fait une grosse vente. Il est vraiment content. Enfin, il va avoir de l'argent pour 2-3 mois. Il va pouvoir payer un loyer très modique. Il y a assez d'argent pour acheter l'épicerie. Il y a assez de l'argent peut-être pour avoir un logis dans un motel cheap, mais au moins un toit stable pour son fils. Il arrive à la banque et se rend compte que du 650$ qu'il vient de vendre, l'impôt, il en prend 625. Il en reste 25. C'est pas juste ça. L'important, c'est de comprendre les émotions du personnage à ce moment-là. Il n'arrête pas d'avancer, de ne pas lâcher. Les adultes comprennent un peu mieux ça, mais l'idée de le faire regarder à mes élèves, c'est qu'ils comprennent qu'il n'y a pas juste c'est quoi être un adulte, c'est quoi être un parent, c'est quoi la réalité de leurs parents, comment sont protégés, comment des parents deviennent des parapluies pour des enfants, comment les parents peuvent prendre des millions de balles pour protéger le petit. C'est un lien, c'est un rôle qui est instinctif, que ce soit dans nature, dans jeune ou le boulevard Saint-Denis, c'est la même Christie d'affaires. C'est juste le contexte qui est différent. C'est de voir comment lui s'en va super bas, il remonte un peu, il reprend une autre débarque, il revient encore plus bas qu'il était, puis qu'il a jamais. Fait quand il arrive avec son 650$, il fait sa vente, on est vraiment content. Il s'en fait enlever 625, ça le brise, c'est ça qui casse. Là, il est rendu officiellement sans abri, mais en même temps, il a une chance de fou où il rencontre pour une raison X. Le personnage de Will Smith fait un cube Rubik dans un taxi un moment donné, puis il croise un homme qui est un responsable ou un haut placé dans une firme de marché boursier. Puis il parle par George, le monsieur est impressionné par la capacité du personnage de Will Smith de résoudre des problèmes. Encore là, t'as une belle métaphore, là. Ça se peut que dans la vie, ça soit jamais arrivé. J'ai pas lu le livre, mais ça se peut que ça soit un ajout dans le screenplay pour démontrer une qualité du personnage principal qui est la résilience, la détermination et sa capacité rapide à résoudre des problèmes. Et tout ça dans un cube Rubik. Fait que là, le Big Boss est impressionné par ça. Donc, il offre une opportunité d'internship pendant 6 mois. Il ramène Sweet Effort. Fait que comprenez la détermination, la persévérance en arrière d'un homme qui accepte un
projet qui lui rapporte absolument rien pour l'instant, qui l'oblige à aller dans des refuges comme l'Aube-Rivière à Québec, comme l'Armée du Salut, pour pouvoir juste faire les besoins de base de son petit pipi, son petit caca, laver à mitaine, laver son fils, d'avoir un abri pour lui et son fils, puis au moins un repas chaud dans la journée, entouré de gens qui puent, de gens qui se parlent tout seul, de grands barbus. C'est pas la crème de la société, là. Pendant 6 mois, là. C'est assez d'imaginer ça, là. Puis comment le patron, lui, t'as se demandé si dans le film, il se doute pas que cette personne-là est dans cette situation-là et que toutes les invitations par la suite sont des tests. Il arrive un moment où un des patrons ou le même patron demande à Will Smith 5$. Puis c'est tout ce que Will Smith a dans ses poches. Puis le gars, il est riche, là. Puis Will Smith, il remet son 5$. Puis tu vois dans sa tête, là, à quoi qu'il pense, puis à tout qu'il pense. Mais il donne pareil. Peut-être pour de multiples raisons. Une de celles-là, c'est peut-être que malgré toute sa situation, c'est un homme qui reste généreux, qui se donne. Puis c'est comme ça que ses valeurs sont fondamentalement soudées. Il me reste une chemise avec une manche, je vais te la donner, je vais me ramasser avec une chemise, pas de manche. Puis c'est ça qui est ça. J'en ai pas, puis je vais te donner du peu que j'ai. Et c'est drôle parce qu'à la fin du film, je vais pas vous battre le je sais que je suis en train de vous compter le film.
Spoilers!
Le personnage, de le patron en tant que tel, redonne le 5$ au personnage de Will Smith vers la fin, qui démontre peut-être justement que c'était un test. Mais Will Smith, pendant son internship, va chercher les cafés, fait tout ce qu'on lui demande, pose pas de questions, le fait du mieux qu'il peut. Il y a des situations où il est en retard à cause il y a une fois dans le film où il se fait frapper par une auto, il manque un soulier, puis il part à courir sans son soulier parce qu'il veut pas arriver en retard. Je pense que c'est son entrevue pour l'internship. Puis il arrive sans soulier. Puis on lui demande pourquoi t'as pas de soulier, puis il invente une raison parce qu'il veut cacher sa situation qui est pauvre. Fait qu'il essaie de prendre le minimum qu'il peut, genre du linge de seconde main pour pouvoir avoir un peu propre. Il peut pas vraiment cacher. Il essaie de cacher le maximum de sa situation pour pas que les gens savent qu'il est pauvre. Fait qu'il y a un peu d'orgueil là-dedans, il y a un peu de fierté là-dedans, il y a tellement d'une belle persévérance, une belle détermination à vouloir quelque chose. Quand on parlait dans les dernières semaines de gratification instantanée, il y a tellement de belles leçons dans ce film-là, mais c'en est une, ça. Est-ce que vous seriez capable aujourd'hui, gang, là, puis posez-vous la question honnêtement, là, de vous investir cœur et âme pendant 6 mois dans quelque chose que vous avez aucune promesse, basée sur le simple fait que vous y croyez en dedans, que vous êtes déterminé à l'avoir, que vous êtes prêt à tout faire pour que ça arrive. Posez-vous la question, c'est pas un jugement, là. Assoyez-vous avec un café là, en face de vous-même, puis posez-vous la question, vous seriez capable aujourd'hui. Mais le gars dont je vous parle est rendu multimillionnaire, et il l'a mérité peut-être. C'est pas que c'est pour ça qui va t'arriver, puis que le but à atteindre, c'est d'être multimillionnaire, là. Pas ça, là. Le but à atteindre, c'est pas d'être millionnaire. Le but à atteindre, c'est de te réaliser comme personne, faire quelque chose que t'aimes, de juste une vie à vivre, de faire ce qui te passionne, puis c'est pas grave, il y a des risques, là. Puis si vous êtes bien entouré là, dans votre couple, dans votre famille, là, les gens qui vous entourent, votre conjointe, là, va vous appuyer là-dedans. Ça sera pas, ben là, qu'est-ce qui va nous manquer? Non. Mais que le film nous apprend, c'est Christy, si tu veux de quoi, là? Au pire des pires, tu vas te ramasser dans un refuge, si. Le pire des pires, tu vas avoir vécu cette expérience-là dans ta vie. Ton enfant va avoir vécu cette expérience-là dans ta vie. Puis le beau là-dedans, c'est le rôle du père qui, à tous les jours, essaie de faire ça comme un jeu pour son fils, pour y épargner la conséquence psychologique. Ces séquences-là me font penser au film La vie,
la vie est belle. C'est ça. Moi, tout, j'avais pensé à la même affaire.
Si vous ne vous souvenez pas, c'est un film qui a été oscarisé, je sais pas combien de fois.
Roberto Benigni,
qui est devenu une superstar à travers ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film qui va vous faire broyer. Mais c'est un film sur la Première Guerre mondiale.
Deuxième
Guerre mondiale, où il y a un père qui est dans un camp de concentration. Puis pour éviter les horreurs du camp de concentration, invente à son fils que tout ça est un jeu. Transforme tout en jeu. Puis garde toutes les souffrances pour lui pour protéger son fils. Si vous ne broyez pas pendant ce film-là, vous n'êtes juste pas vivant.
C'est tout pour cette semaine. Sachez que les En toute liberté sont du lundi au vendredi gratuitement sur YouTube et sur Spotify. Et si vous voulez en savoir plus sur mes bulletins de nouvelles et les avoir d'entièreté, j'en fais 4 par semaine. Allez sur patreon.com/isénéchal et abonnez-vous. Bon week-end tout le monde.